Salut, bienvenue dans ce streetcast. Streetcast, qu'est-ce que c'est en fait un streetcast? Ben, c'est un podcast inaudible. C'est un podcast qu'une personne enregistre en faisant une activité diverse. Et pour lequel on entend du vent, du bruit, des respirations. Et sous le couvert du terme streetcast, ben, on se cache de faire quelque chose, une production sonore intéressante. Qui n'en demeure pas moins intéressante, c'est le sujet. Alors, le sujet de ce streetcast aujourd'hui, ça va être l'info nuagique. Mais juste avant, je voudrais faire un petit clin d'œil à Pierre-Olivier Dibman, ce fabuleux personnage qui apparaît un peu partout, sur Internet, sur la toile, sur les intertubes. Qui a un streetcast lui aussi, et qui est comme le mien, là, tout à fait inaudible, sur le plan du son, un peu dégueulasse, mais qui n'en demeure pas moins super intéressant sur le fond. Alors, un streetcast, on comprend que la forme, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est le fond. Et il a attrapé la COVID, et il expliquait que un des désagréments qu'il avait subi pendant la COVID, c'était des pertes cognitives un peu, des pertes d'être capable d'avoir des réflexions approfondies, de réfléchir de manière plus structurée. Bref, il est devenu pour un moment un peu comme tout le monde, parce que ce personnage est très très intelligent et a des réflexions bien intéressante à suivre, et bien structurée bien souvent, et très argumentée. Et pendant quelques mois, il est devenu comme le commun des mortels que nous sommes, quand nous l'écoutons. Et c'est un clin d'œil, mais je le pense honnêtement. Pierre-Olivier était très brillant et très intéressant. Et je ne savais pas que c'était un des résultats possibles, c'est-à-dire que ça attaque le cerveau. Ça attaque notre capacité à se concentrer, à réfléchir avec attention sur certains trucs. Alors, je vous relaye son streetcast, qui pour le coup, pour une fois, est pas si dégueulasse que ça au niveau du son. Ça s'appelle le Blabla Pod. Sa dernière capsule, où il parle de salubrité alimentaire, où j'ai été assez surpris d'apprendre que, encore une fois, le Canada fait quand même mieux que les pays européens. Je dis encore une fois parce que je suis chauvin, hein. Vous l'aurez compris. Je suis pas équitable, je suis pas juste. Pas raisonner quand on parle du Canada. J'ai pas de recul. C'est le plus meilleur pays au monde. Et ben là, il y en a une démonstration quand il parle de salubrité. Et c'est vachement intéressant. Par ailleurs, ça m'a fait penser que je devrais peut-être parler d'alimentation moi aussi, sous l'axe transformé, ultra transformé, non transformé. Parce que depuis mon changement alimentaire, où pour d'aucuns le savent, je ne mange plus de viande et j'essaie d'arrêter tout ce qui est produits laitiers et œufs, ce qui n'est pas facile, honnêtement, ce qui n'est vraiment pas facile. Mais la viande, ça, c'était assez facile. Et souvent, je partage des aliments de transition, c'est ce que j'appelle comme ça. Oh putain, qu'il y a du monde sur la route à cette heure-là, c'est incroyable. 6 heures, il y a du monde. Puis ça va vite. Ouais, c'est ça, c'est les médias sociaux sur lesquels je partage souvent des aliments de transition. C'est comme ça que je les appelle. Vous savez, ces viandes végétales, ces faux jambons, ce faux bacon, ces fausses pépites de poulet qui sont faites à base de soja, effectivement ultra, ultra transformées. Alors, je pense que je vais en parler à un moment donné, car il faut faire une différence entre des aliments de transition, un changement alimentaire, les raisons pour lesquelles vous le faites et notre santé. Parce que dans le monde de la viande animale, on sait qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de produits ultra transformés, les amis. Alors, il y a aussi ces défauts-là dans le monde sans viande animale, je vais dire ça comme ça. Végétale. Plus végétalienne, on va dire ça comme ça. Au-delà de la mode, il y a quand même aussi les mêmes problèmes que dans ce monde-là. Aujourd'hui, je voulais parler d'infos nuagiques. Ou les Français appellent ça le cloud computing. Par les Français pour deux axes. D'abord, les Français ont généralement un accent pourri, mais pourri. Mais c'est ce qui fait le charme. Puis en même temps, un accent, je peux pas blâmer. Moi, j'en ai un en français. Alors, c'est normal qu'il y en ait un en anglais. Je vais m'en reprendre. C'est pas un accent pourri, c'est un accent. Et c'est beau. L'anglais pratiqué par les Français, c'est beau. Mais souvent surprenant. Alors, on parle pas de cloud. De tout. Et c'est ça qui me fait rire. C'est qu'on le prononce à la française et je pense que c'est ça qui me fait rire. C'est pas un accent à chier, je me reprends, je suis désolé. C'est un accent surprenant qui fait plaisir à entendre. Et pour d'aucuns, pour plusieurs, ceux qui ne comprennent pas l'anglais, je suis sûr que si vous pratiquez avec des Français de France qui parlent l'anglais, vous allez tout comprendre. Vous allez vachement tout comprendre. Parce que au-delà des mots en anglais, quand il y a un accent, une façon de parler, des fois c'est beaucoup plus simple. Je m'aperçois que l'anglais canadien est beaucoup plus simple à comprendre qu'un anglais d'Angleterre ou qu'un anglais texan, exemple. Un anglais de la côte est est plus simple à comprendre qu'un de la côte est américaine est plus simple à comprendre. Qu'un anglais d'Amérique du Centre, on va dire ça comme ça. Alors, j'en reviens à mon cloud computing, ou info nuagique. J'ai entendu l'info nuage aussi. Bref, pour ceux qui m'écoutent, vous êtes à peu près comme moi, probablement. C'est l'info nuagique ou le cloud computing, c'est juste l'informatique qu'on connaît, là. Ben, figurez-vous donc, qu'il y a des gens qui s'achètent des serveurs personnels et qui font leur affaire chez eux. Ouais. Alors, pour la petite histoire, au début d'informatique, il y avait des ordinateurs centraux sur lesquels on se connectait. Je ne sais pas si ça va être désagréable. Il y avait des ordinateurs centraux sur lesquels on se connectait. Parce que ça coûtait cher un ordinateur. Alors, tout le monde ne pouvait pas en avoir. C'était souvent les universités. Enfin, en fait, ça passe tout le temps par les universités dans l'histoire de l'informatique. Souvent, en tout cas. Ou les centres de recherche. Et après ça, il y a eu le personal computer. Puis après ça, il y a eu la centralisation des serveurs. Alors, quand les gens avaient acheté un gros ordinateur central, mais c'est vraiment déplaisant. Pour vrai, là. On n'est pas en télétravail au Québec. Je vous l'annonce, là. Il y a des problèmes de trafic. Il y a des problèmes de bouchons. Et bien, de facto, des problèmes de bruit, ce que vous entendez. Hein. Vous méritez ça. Vous aviez juste à être confiné. Alors, c'est ça. Dans l'histoire de l'informatique, il y a eu les ordinateurs centraux sur lesquels on se connectait. Après ça, il y a eu les ordinateurs personnels qu'on avait. Bon, ça m'a fait peur. Il y avait les ordinateurs personnels qu'on achetait et qu'on avait à la maison. Et puis les entreprises ont commencé à avoir à scinder leur gros mainframe qu'on appelle ordinateurs centraux en des plus petits serveurs. Centrales, c'était des monstres. Les serveurs étaient plus petits. Et bien, des gens ont fait l'informatique à la maison dans leurs entreprises. En achetant des serveurs pour stocker des fichiers, en achetant des firewalls, des toutes sortes d'appareils qu'on voit taper data center ou centre de données. Et vous allez voir des images de ce que c'est des serveurs. Bien souvent, c'est des baies, c'est des étagères dans une grande armoire Maintenant, hein, c'est comme ça. Avant, ça ressemblait plus à des tours. Et beaucoup d'entreprises se sont équipées de ces serveurs-là. Et bien souvent, n'optimisaient pas leur capacité de calcul. Typiquement, le processeur était utilisé le jour, très peu la nuit, et peut-être pas beaucoup occupé le jour même. On achetait toujours beaucoup trop. Mais les comptables, ils aimaient ça, parce qu'on pouvait immobiliser. Alors typiquement, si vous avez besoin d'un serveur de stockage, un SAN, pour mettre d'autres serveurs dessus, vous aviez besoin, je sais pas moi, de 100 terabits. C'est beaucoup de gigabits, ça. 100 terabits. Ben, peut-être que la première année que vous l'achetiez, vous utilisiez peut-être 10 terabits. Puis à la fin de l'immobilisation, sur 5 ans, 8 ans, vous étiez peut-être à 90 terabits. Ou presque 100. Alors le comptable était content. Mais là où il l'était moins, c'est quand il fallait acheter un deuxième pour acheter 100 autres terabits. Alors, vous comprenez, l'idée, c'est que beaucoup de compagnies ont acheté des serveurs sans vraiment les optimiser et les utiliser à leur pleine capacité. Et là, le cloud est arrivé. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'Amazon, parce que c'est le chef de file dans le domaine, avec AWS, Amazon Web Services, quand Amazon est arrivé, c'est un peu la même réflexion qu'il a eue. C'est-à-dire qu'ils voulaient avoir beaucoup de serveurs pour répondre à une capacité ou une charge spontanée. Mais le reste du temps, ben, ça dormait au gaz. Alors les comptables ont fait, il faut trouver une solution, les mecs. Hein? Tiens, c'est un modèle d'affaires. Quand je parle de ça, c'est 2002, à peu près. 2002, AWS, ils commencent à se questionner. Ils offrent des premiers services. Alors, S3... Simple Storage Stockage, je ne sais plus trop quoi, ça veut dire S3. Un serveur sur lequel on peut déposer des fichiers. Après ça, il y a eu SQS. Ça, c'est pour des queues de... Puis EC2, c'était des unités de calcul. C'est pas là où on mettait le stockage, mais c'est là où on faisait des traitements. 2006, Amazon a sorti ça. Plus officiel, il l'avait sorti avant 2006. Mais AWS a été vraiment plus officiel en 2006. Mais avant ça, en 2000, il y avait quand même des Google, des Gmail, des Hotmail, où ça, c'est quand même des services infonuagiques, du cloud computing. Mais ça, ça rentre plus dans la catégorie des services. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'acheter un abonnement, de configurer un serveur dessus, virtuel, de configurer le système d'exploitation, de configurer les couches logicielles pour avoir un service en bout de ligne. Eux autres, c'est t'achètes juste le service. Alors, dans fin 2000, début 2000, je pense, Salesforce, il y a eu toutes sortes de services en ligne qui sont arrivés comme ça. Et nous, ce qu'on connaît, pour ceux qui m'écoutent, on connaît bien ça, les services. C'est pas mal ça qu'on consomme, WordPress, Medium, Netflix. C'est du cloud, mais un service. Maintenant, il y a du cloud gaming. Il y a du desktop as a service avec Shadow PC. Bref, tout est tout est cloud. Et ça a évolué jusqu'à aujourd'hui. Hein, le cloud, c'est, vous voyez, il y a plein de nouveaux services cloud. Mais, parallèlement à ça, des entreprises peu innovantes, avec des gens de l'arrière-garde, on va dire ça comme ça, qui entretenaient des serveurs, entretiennent des serveurs, puis entretiendront toujours des serveurs, parce que il y en a qui ont beaucoup investi là-dessus. Et dans certains cas, ça a sa raison d'être. Tout ne doit pas être cloud computing. Info nuagique. Il y a des fois des services où c'est mieux d'avoir ton serveur chez toi. Typiquement, je sais pas, une compagnie qui ferait de la recherche élémentaire, qui voudrait pas, avec des secrets industriels, des choses comme ça, Puis encore, hein, il y a tellement de bémols parce que maintenant, il y a des clouds hybrides, il y a des clouds communautaires, il y a des clouds privés. Mais bon, il y a encore des gens qui pourraient avoir besoin d'un serveur. Ça se discute, ça se nuance, ça se peut. Mais le cloud computing est quand même là. Info nuagique est quand même là depuis très longtemps. Et c'est toujours surprenant d'avoir les débats du genre « Ouais, mais c'est pas sécuritaire. Ouais, mais là, c'est... » Et je les comprends, mais je suis surpris. Je suis plus là, moi, personnellement, parce qu'il y a du chiffrement, parce qu'il y a de l'encryption, il y a plein de façons du hachage, il y a plein de façons de sécuriser du code, de l'information, même s'il est pas, même si tu le touches pas physiquement, même si tu n'as pas le serveur chez toi. Hein, pour rappel, l'encryption, là, c'est avec des calculs mathématiques très, très évolués d'être capable de rendre ça tellement illisible que ça prend des ordinateurs beaucoup trop puissants et encore des années de calcul pour pouvoir le déchiffrer. Il y a même des algorithmes qui sont indéchiffrables, qui se veulent indéchiffrables, pour lequel on appelle du fingerprinting, de l'empreinte digitale, numérique, je ne sais plus comment le dire pour vous les Français, mais vous comprenez, où on chiffre, où on prend une empreinte d'un élément informatique, et cette empreinte-là va être unique. Et des fois, on a juste besoin de ça. Typiquement, les mots de passe. Les mots de passe dans un système informatique, chez Netflix, chez Google, chez n'importe qui, un service moindrement intelligent ne va jamais stocker votre vrai mot de passe. Il va stocker votre clé numérique indéchiffrable qui représente votre empreinte de votre mot de passe unique, qui représente votre mot de passe, mais il ne stockera jamais votre mot de passe. Alors, il y a plein de moyens en informatique de chiffrer, de cacher, de... Et ça n'a aucun sens sérieux, l'automobile, là. Wow! Il y a beaucoup, beaucoup de moyens en informatique de, même si tu n'as pas la donnée résidente chez toi, dans ta maison, de chiffrer ça. Alors, les amis qui allaient me parler d'ordinateur quantique, je suis assez bien placé, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Et vous irez voir des professeurs en chiffrement, dans ces domaines-là, je me rappelle plus le terme. Notamment, j'avais interviewé un professeur de la chaire de recherche du centre de l'Université de Montréal qui m'avait expliqué que l'ordinateur quantique va accélérer certains trucs. Au lieu de passer des millions d'années à déchiffrer quelque chose, ça pourra prendre peut-être des centaines d'années. Mais en bout de ligne, ça va quand même, le chiffrement va quand même être assez fort. Alors, si vous avez peur de l'ordinateur quantique, on peut facilement s'en prémunir. Bon, là, je vais aller faire ma course et je reviens. Bon, alors, parce que je vous parle, pourquoi? Parce que j'ai été faire une petite course. Alors, je vous explique rapidement, je dors pas bien. Ça m'arrive de pas bien dormir. Je suis un petit peu drogué aussi à ce qu'on appelle des boissons énergisantes. Alors, il y en a une que j'aime bien. Alors, ce que je dis, c'est pas bien d'acheter ça puis de manger ça. Là. C'est pas bien du tout, du tout. Mais ce produit-là est quand même bien. Ça s'appelle Guru, G-U-R-U. Produit bio, fait au Canada. Non, ce n'est pas du Red Bull, comme disent les Français. Du Red Bull. Non, ce n'est pas ça. Alors oui, le terme, c'est cryptographe. Alors, j'en ai interrogé des cryptographes parce que, ben, dans mon ancienne vie, j'ai eu beaucoup d'intérêt à ça. Et pour moi, la cryptographie est assez avancée. J'ai eu des confirmations, des preuves, et ainsi de suite, que l'intérêt de conserver une donnée chez soi est inutile. Et honnêtement inutile. Alors oui, vous entendez dans les médias, tel chiffrement a été cassé. Oui, ça arrive. Mais à un moment donné, il faut faire la part des choses. Il faut aussi regarder la sécurité dans le cloud, dans son ensemble. C'est pas parce que un élément de chiffrement sur un serveur est cassé que tout le reste ne fonctionne pas. En même temps, d'aucuns diront que la sécurité, c'est aussi fort que son maillon le plus faible. Et oui, vous auriez raison. Mais là n'est pas le débat. Le débat est plus... Je vous ai dit, il y avait des nuances par rapport à conserver des données sur un serveur physique chez soi. Il y en a... Je comprends pas, mais ça se pourrait, là. C'est bien aussi. Puis il y a aussi du cloud privé, comme je vous ai dit. Puis du cloud hybride. Du cloud, là, c'est une salle de serveur. Alors, on appelle ça du cloud. Moi, j'étais un gars de web. Cloud privé, c'est une salle de serveur de quelqu'un qui... de quelqu'un. C'est un data center à une personne qui l'utilise juste pour lui. C'est une salle de serveur juste à lui. C'est un cloud privé. Un cloud public, c'est quelqu'un qui la sous-loue. Alors, il y a GoDaddy, vous avez OVH, vous avez AWS, Google, Azure, Oracle, IBM, Alibaba. Vous en avez plein de publics maintenant. Mais ça a toujours existé, ceux qui faisaient des sites web qui étaient dans le domaine du web. Vous avez toujours connu ça, du cloud public, sauf qu'on ne l'appelait pas comme ça. On disait un hébergeur. Alors la petite histoire, c'est drôle parce qu'on pense que c'est des concepts assez nouveaux, là, contemporains, là, qui sont là depuis 15 ans, 2006. Je vous dis, AWS est arrivé, point de service, dans les années 2000. Mais vous serez surpris d'apprendre que les premiers concepts datent de 1950. Un peu comme l'intelligence artificielle, hein, c'est très vieux. 1950, je pense que c'est Herbert Grosch, je ne m'en rappelle plus vraiment si c'est le bon nom, qui parle d'un concept de mutualisation. Il y en a un, je pense, dans les années 60, c'est ça, qui parle de concept de data center, lui, carrément. Qui dit que on pourrait avoir 15 centres de données sur la planète, ça serait suffisant. Il est ambitieux, le gars. 66, je pense, c'est un ancien ministre canadien qui, lui, écrit un livre sur les bases du cloud computing. On l'appelle pas comme ça encore, hein, mais qui inscrit toutes les bases de ça. Ben, d'ouverture, protocole ouvert, hein, parce que si le cloud existe, c'est parce qu'il y a Internet, hein, tout simplement. Mais dans ces années-là, 60, 50, 60, c'est les idées. Ça, on parle un peu des concepts, on pose les bases. On les nomme pas encore, on pose les bases. On aimerait que ça fasse ça. On pense que ça serait ça. Bon, vous le savez après, ARPANET, Internet est arrivé... Mosaïque, il me semble que c'était en 93, premier navigateur Internet, qui n'était pas sur un DOS ou un Linux ou sur un... Oui, sur un Linux un petit peu, là, mais qui n'était pas sur un Windows, qui était fait par Steve Jobs. Ben, pas lui directement, mais ça a été sur NextOS. Vous savez, quand Steve Jobs s'est fait foutre à la porte, il a bâti la compagnie Next... Des gros ordinateurs carrés. C'est très très drôle, hein, cette aventure-là. Parce que c'est un peu les bases du macOS, mais pas tout à fait encore. Je vous expliquerai peut-être ça dans un Apple différemment. Alors ouais, c'est ça. Premier navigateur, 93, je pense, c'est Mosaïque sur NextOS. NextOS qui était sur, ben, qui était le système d'exploitation de Next, Steve Jobs. Encore une fois, lui, il fait chier dans l'histoire de l'informatique. Il amène des nouveautés qui vont perdurer. Si vous suivez Apple différemment, vous savez que je fais beaucoup d'historique informatique autour de la marque. Mais c'est parce qu'elle est très, très riche. Elle est très, très, très riche. Alors oui, c'est ça. NextOS arrive. 93, fin des années 90, des premiers services en ligne. On a Hotmail, on a du SaaS, du Software as a Service. logiciel en tant que service en français. Ou tu as un login mot de passe, tu n'as rien à installer, puis tu as déjà un service. C'est ça un SaaS cloud. Après ça, ben, tu as des serveurs virtuels. Ça, c'est plus d'infrastructure as a service. Puis tu as du plateforme as a service. Ou c'est vous louer un hébergement pour WordPress, par exemple. Vous n'avez pas à vous soucier du serveur, vous n'avez pas à vous soucier du système d'exploitation, d'antivirus, des backups, puis tatatitatata. Tout est géré. On appelle ça du plateforme as a service. Mais depuis, on a du cloud as a service, du gaming as a service. Stadia. Toutes ces choses-là qui viennent du cloud où votre terminal n'a pas besoin d'être ultra puissant, juste d'afficher le calcul des autres ordinateurs. Alors on a du desktop as a service où vous avez un ordinateur, et là c'est pas un serveur, un ordinateur qui roule ailleurs. Et encore une fois, vous n'avez pas besoin d'avoir nécessairement un gros ordinateur. Tous les calculs, le traitement, la carte graphique même maintenant se fait à l'extérieur. Vous avez juste besoin d'un ordinateur pour afficher le rendu et pas pour traiter l'information. Chromebook, ça se situe où? Chromebook, ça se situe, je vous dirais, entre les deux. C'est un ordinateur, un Chromebook, hein? C'est un Linux à la base, qui a un login qui se fédère via Google, un authentifiant que vous utilisez qui vient de Google, qui se synchronise via le cloud, mais c'est quand même un concept assez traditionnel, un Chromebook. Par contre, c'est la façon qu'ils l'ont implémenté qui est intéressante, dans la mesure où le système est très fermé, beaucoup plus que chez Apple. Alors, tu sais, ceux qui me disent « Ouais, Apple s'est fermé, on va chez Google, c'est bien mieux. » Non, pas vraiment, messieurs, mesdames. Là. C'est pas les mêmes genres de fermetures. Hein, pour brider des Chromebooks, au début, il fallait dévisser des vis physiques. C'est pas juste de le jailbreaker, là. Alors, c'est ça, le cloud computing. Le cloud computing, ou l'info nuagique, c'est un concept assez vieux. Les idées des années 50-60, la technologie des années 70-80, ARPANET, Internet, les navigateurs, les API, les protocoles HTTP, tout ça qui est arrivé. Et ça, c'était la technologie qui est arrivée. Puis après ça, ben, les compagnies sont arrivées avec les vrais trucs. Je vous dirais que... Est-ce que c'est l'avenir? Il n'y a pas une question d'avenir. C'est en fonction de vos besoins. Je vous dirais que maintenant, sont rares les gens qui ont une librairie de musique à la maison. On a tout Spotify. On a tout Apple Music. Il y a effectivement des nuances, des exceptions. Et ça sera toujours un peu ça en informatique. Je pense qu'on est arrivé à une maturité de consommation à la demande dans tout ce qu'on fait, et notamment en informatique. Ce serait un petit peu con que vous vous bâtissiez une maison avec une centrale nucléaire à côté, des unités de stockage de votre électricité pour allumer votre télé. Vous allez vous relier au réseau, vous allez consommer à la demande. Je fais un petit clin d'œil sur l'électricité parce que ça me fait rire. Oui, tout est sur abonnement maintenant, ça fait chier. Je suis désolé, mais le gaz, l'électricité, les taxes... Le fait que vous soyez dans une collectivité, c'est des abonnements. Hein. Vous payez pour des routes. À chaque année, vous n'avez pas le choix. Vous payez pour un système de santé, vous n'avez pas le choix. Avant, vous n'aviez pas le choix. Maintenant, vous avez le choix. Ça, c'est mieux, peut-être. On va dire ça comme ça. Vous pouvez pas écouter Netflix si vous voulez. Hein. Ouais, les abonnements, il y en a trop. Ouais, mais c'est comme si tu me dis qu'il y a trop de choix dans ton assiette, il y a trop de variété. Oui, il y a beaucoup d'abonnements. C'est vrai, ça fait chier. Des fois, il y a des services où tu achetais une fois, tu n'avais pas à repayer. Mais il faut comprendre que le développeur, il vous perdait après cet achat-là. Les compagnies, vous perdaient après ces achats-là. Ce qui fait que... Oh, je vais recroiser les chiens. Je vais me tasser. une guerre de chiens. Ce qui fait que on a besoin d'abonnements pour maintenir un écosystème en santé, de développement, d'ingénierie, de recherche. Parce que l'achat unique, ça a l'avantage juste pour le client. Et en bout de ligne, c'est peut-être pas tout le temps bien. Alors après ça, il y a d'autres questions hein, qui peuvent jaillir, puis j'ai pas les réponses, puis j'ai pas réfléchi à ça, puis j'ai pas envie de réfléchir à ça maintenant. De nous forcer à racheter des appareils d'obsolescence. Oui, aussi. C'est vrai, il y a ça. Mais d'un autre côté, depuis la nuit des temps, l'humain change. Alors, on va falloir s'y adapter, hein, ceux qui m'écoutaient et puis qui vous êtes dans votre coin avec les bras croisés, avec les sourcils froncés en disant « Oui, mais là, ça change tout le temps. Oui. » Ben, vous changez tout le temps, vous aussi. Hein. Vous êtes né, vous avez grandi, vous avez appris des trucs. Et, vous faites tout le temps que changer. Votre corps ne fait que changer. La planète change. Alors, ceux qui sont réticents au changement puis qui ne veulent pas du changement, fâchés. Ben, adaptez-vous. Réfléchissez aux causes pour lesquelles vous êtes fâchés plus que sur le changement. C'est peut-être plus intéressant. Ben voilà, ma grande messe du matin. On s'est parlé quand même un bon 30 minutes dans un son vraiment dégueulasse. Mais je terminerai en disant, allez écouter Pierre-Olivier Dibman, encouragez-le à créer du streetcast, parce que ce gars-là, il nous fait du bien, puis je pense que ça va lui faire du bien aussi. Alors ne manquez pas Pierre-Olivier Dibman. Et puis aussi mon ami Guillaume. Il a besoin de créer. Ça lui fait du bien de créer. Guillaume Vendée. Allez le pigner un petit peu. Il a fermé son streetcast personnel. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. Il a fermé sa newsletter. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. On a besoin d'une zone de création personnelle. On a besoin de co-créer, de co-éditer. Clin d'œil, Guillaume. On a besoin de son moment de réflexion. Et Pierre-Olivier Dillman l'a bien formalisé dans ses mots. Je veux reprendre le streetcast pour me donner un endroit de réflexion où je peux forger un élément, une réflexion. Et je pense qu'on a besoin beaucoup de ça, tous les humains. Là, je parle à mon ami Guillaume, clin d'œil. Allez, ciao, bye bye.